Regardez, s'il y avait une pandémie, on entendrait tous. On vient ici depuis un mois et vous arrivez. On n'arrête pas de s'embrasser.
Cette dernière année, en fait, avec la gestion de la pandémie, bah, c'est venu à appuyer sur tous les endroits qui faisaient déjà mal, en fait.
Pour notre après Covid-19, nous avons besoin de 109. Dégageons ces individus, coup de balai chez les vendus.
On est dans cette situation paradoxale où les gens n'ont jamais, autant qu'aujourd'hui, eu accès à la parole publique. Et en même temps, les gouvernants n'ont jamais été aussi peu en mesure de changer le cours des choses.
Et donc oui, moi je pense fondamentalement qu'on est à un véritable tournant.
La première, démocratie en question, Arnaud Reussen.
C'est comme si un grand fossé s'était creusé, un fossé qui ne cesse de s'élargir entre citoyens et politiques, citoyens et journalistes, entre les citoyens eux-mêmes aussi. Tous les indicateurs le montrent, la méfiance gagne de plus en plus de terrain et fracture nos démocraties. Mais elle vient d'où cette méfiance? Comment expliquer que certains basculent complètement dans la défiance même, voire le complotisme? Comment est-il possible de renouer le fil? C'est ce que l'on va prendre le temps d'explorer.
Ils sont les de nous tuer avec des lois liberticides.
Premier épisode, ceux qui n'y croient déjà plus.
Notre enquête commence le 26 mai 2021, alors que la Belgique est en pleine traque de Jürgen Konings, un militaire de 46 ans qui s'est évanoui dans la nature 10 jours plus tôt après avoir volé des armes lourdes dans un des dépôts de l'armée belge.
Des soldats, de la défense, des policiers, des démineurs, tous tentent de débusquer et de cerner le militaire Jürgen Konings.
13 heures, les unités spéciales s'enfoncent à pied dans les bois, se déployant pour une fouille approfondie du parc national de la Haute Campine au Limbourg.
La presse tout comme la population sont tenues à l'écart.
Il a écrit à sa petite amie une lettre qui laisse assez peu de mystère sur ses intentions.
« Je ne peux pas vivre avec les mensonges des personnes qui décident comment nous devons vivre. Les élites politiques et maintenant les virologues décident comment vous et moi devons vivre. »
Et un peu plus loin, il précise.
« Je n'ai pas peur de mourir, mais alors ce sera à ma façon. Je vivrai mes derniers jours comme je le veux. »
4 lance-roquettes ont d'ailleurs été retrouvées dans son véhicule, non loin de la zone de recherche.
On a décidé que chaque centimètre carré devait être fouillé parce que le but est vraiment de retrouver cette personne qui représente un danger pour le citoyen, pour tout le monde et même pour elle-même.
Ce qui m'intrigue, au-delà de cette traque elle-même, c'est ce qui se passe en parallèle sur les réseaux sociaux où les groupes de soutien, parfois publics, parfois privés, fleurissent, au nord surtout, mais également au sud du pays. Et les mots sont clairs.
Allez Jürgen, fais ça bien.
J'en ai rien à foutre de qui se sent offensé. Il y aura une guerre tôt ou tard, je le soutiens.
Sur le groupe Als Ein Harter Jürgen, comme un seul derrière Jürgen, groupe public, il y a 46 000 membres inscrits. Le groupe sera supprimé quelques jours plus tard par Facebook. Mais il y a aussi ce qui se dit en privé, de manière à peine plus discrète. En une demi-heure à peine, le temps de me créer un faux profil, je parviens à me faire accepter sur 2 groupes privés, 2 groupes francophones de soutien à Jürgen Konings, sur Facebook.
Jürgen est le seul qui parvient à me rendre espoir dans ma vie de merde. Levons-nous et soutenons notre patriote. Nous sommes des Gaulois, merde!
Le seul Belge qui a des couilles, qualifié par les gauchos du pouvoir d'extrémistes de droite, tout ça pour sauver leur petit cul arrosé et fucké par les mondialistes de gauche.
La plupart des participants s'expriment à visage découvert. Et n'hésite pas, d'ailleurs, à se dévoiler.
Je vais me présenter. Je suis un fervent supporter de Jürgen. Je suis un ancien du 3e d'artillerie. Je crois que nous devons agir au maximum pour empêcher l'État d'assassiner Jürgen. Jürgen doit devenir notre leader et notre force. Que Dieu le garde.
Il y a même des lives vidéo qui sont organisés pour discuter du cas Jürgen.
Ben voilà, bonjour à tout le monde. En fait, je suis resté plus de 4 ans comme militaire dans une unité paracommando, unité spéciale. Je pense que le message, c'est qu'il voudrait que la population soit derrière lui pour bien faire comprendre à tous nos militaires qu'il est temps de défendre son pays, de revoir pourquoi tous les militaires encore en fonction maintenant ont signé.
Jürgen Konings, en héros libérateur d'une Belgique opprimée, étouffée par les mesures de confinement, ce propos-là revient sans cesse.
Lui, c'est un homme aux grosses couilles. Quand il va réapparaître, il va se passer un truc phénoménal, croyez-moi.
Troublé par les mots, par l'ampleur du soutien, je décide d'aller voir une anthropologue. Elle est professeure à l'UC Louvain. Elle s'appelle Jacinthe Mazzocchetti et depuis le début de cette crise, elle observe de près sur Facebook la méfiance grandissante, allant jusqu'à la défiance et même le complotisme.
En fait, j'en ai beaucoup. Donc, voilà. Elle, par exemple, c'est une coach française qui, à un moment donné, s'est mise à avoir une audience de dingue, vraiment, et qui est devenue tout à fait pro-Trump.
Et Jacinthe Mazzocchetti n'est pas vraiment surprise, elle, de cette héroïsation de Jürgen Konings.
Depuis longtemps déjà, au moins une dizaine d'années, mais depuis un an en particulier, en lien avec ce contexte pandémique, dans toute une série de groupes, de lieux dans la population, on sent que gronde, vraiment, c'est vraiment ça, gronde la colère, colère qui se mêle à la défiance. La défiance vis-à-vis notamment des autorités, mais de toute une série d'institutions publiques, que ce soit les médias, mais aussi le monde universitaire, entre autres choses. Et en fait, cette personne, aussi étrange que ça puisse paraître, tout d'un coup représente en fait un peu comme le héros qui va se soulever pour dire haut et fort, mais aussi agir, par rapport à justement ce sentiment de colère, d'impuissance, de défiance qui est là, qui ronge. Dans toute une série de groupes, on a l'idée que pour sortir en fait du chaos violent, inégalitaire, bordélique qu'est la globalisation actuelle, eh bien la solution passera par la prise d'armes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de contenus qui circulent dans des groupes très différents.
Dans le collimateur, en effet, souvent, la globalisation, la mondialisation qui entraîne une perte de repères, une perte de prise et l'impression que les décisions échappent de plus en plus aux États, aux politiques et aux citoyens qu'ils représentent. Le sentiment aussi de vivre depuis des mois en dictature sanitaire au mépris des aspirations de liberté du peuple.
On est occupé de se laisser lobotomiser. Et on va avoir des gens, des garçons comme lui, qui vont se rebeller. Fatalement, vu la tyrannie, vu ce qu'on fait passer au peuple, forcément qu'on va avoir des gens comme ça qui vont vouloir sauver leur pays, qui vont en avoir marre, qui vont dire « Merde, on doit défendre nos enfants ».
Ce qui est sûr, c'est que cette dernière année de pandémie, mais surtout de gestion de crise de la pandémie, parce que c'est surtout ça, finalement, dans toute une série de lieux qui est problématique plutôt que la question pandémique en soi, a appuyé sur toute une série de choses qui étaient déjà là, qui étaient sous-jacentes, notamment, je disais, cette défiance croissante vis-à-vis des institutions et qui est aussi une défiance qui repose sur une réalité, en fait. Notamment la crise économique, la crise écologique, la question des lobbies, les rapports de pouvoir, la corruption, la fraude fiscale, tout ça, ça existe, quoi. C'est pas juste dans la tête des gens, quoi. C'est des choses qui existent et qui font que dans beaucoup de lieux, on passe d'un regard parfois critique, analytique, à vraiment un regard de la défiance et parfois de la défiance absolue, quoi. Donc quand on n'y croit plus du tout, en fait, on pense que c'est pas juste certains rouages ou certains acteurs, actrices du système qui dysfonctionnent, mais que le système dans son entièreté est totalement pourri. Et cette dernière année, en fait, avec la gestion de la pandémie, c'est venu à appuyer sur tous les endroits qui faisaient déjà mal, en fait.
Alors, essayons de comprendre cela. Comment se fait le basculement d'une critique bien légitime des dysfonctionnements actuels de nos sociétés à la défiance totale ? Pourquoi certains, certaines, estiment que notre système démocratique ne peut plus accoucher de solutions ? Allons à la rencontre de ceux et celles qui n'y croient déjà plus. Et pour ce faire, retour sur Facebook, où au détour des pages de soutien à Jürgen, j'ai repéré un appel pour un rassemblement le samedi 29 mai à 14h, une manifestation annoncée pacifique pour Jürgen au bois de la Cambre. Je décide de m'y rendre. Sur place, il n'y a pas seulement des soutiens à Jürgen Konigs. On retrouve aussi beaucoup de ceux qui dénoncent la gestion de la pandémie, des coronasceptiques, anti-masques, anti-vaccins. Ils sont 2 000 ou 3 000 à peu près au cœur du bois de la Cambre, sous le soleil, avec des pancartes, des parapluies jaunes floqués de l'inscription « Stop dictature ». Et sur le kiosque, équipé d'une sono un peu rudimentaire, des orateurs se succèdent venus des quatre coins d'Europe.
Ceci est le message essentiel à donner à ces gouvernants qui ne font agir que pour les intérêts du grand capital financier. Il faut les arrêter de nous tuer avec des lois liberticides.
On est alors fin mai, le virus circule toujours et en théorie, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, même en extérieur. Ici, pourtant, personne ne porte de masque, malgré l'obligation généralisée en région bruxelloise. Mais la police a décidé de surveiller le rassemblement de loin, sans intervenir jusque-là. En majorité, ce sont des néerlandophones qui sont là, mais il y a aussi quelques francophones, dont un groupe dont je décide de m'approcher, en précisant d'emblée que je suis journaliste, ce qui me vaut un accueil plutôt hostile.
Mais vous savez pas, sérieusement maintenant. Vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe.
On se rend compte de quoi?
Il y a de la buée. Vous rendez compte?
Et à quel propos? Enfin, je veux dire, quand vous dites
l'énormité de tout ce qui se passe. Mais le gouvernement nous trompe sur les chiffres, nous trompe sur ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est la parole du gouvernement contre le, enfin, qui prédomine sur tout.
Et pourquoi vous pensez que les journalistes forcément disent... Oui, là, j'enregistre. Ah, je peux.
On va y aller, de toute façon, on va y aller. Parce que, en soi, comment ça se fait que vous, ce que vous dites à la télévision, c'est forcément plus vrai que ce que ces gens-là disent ou ce que d'autres personnes avancent avec des papiers qui sont renseignés? Comment ça se fait? C'est toujours les mêmes. Van Rans, Van Latem, l'autre André, là, on veut voir d'autres personnes.
Principal reproche, le manque de diversité des interlocuteurs et interlocutrices et le manque de place accordée dans nos médias aux discours critiques sur la gestion sanitaire, des discours qui se sont fait leur place par contre sur des circuits parallèles d'informations via les réseaux sociaux.
Mais qui, ça m'intéresse que vous me disiez, qui nous dit de faire ça, nous les médias? Parce que moi, il n'y a jamais personne qui me téléphone pour me dire « Arnaud, tu dois arrêter de raconter ça ».
Mais interroger alors les ASBL, notre bon droit. Interroger Louis, Pascal Sacré.
Les Belges se réveillent.
Les Belges se réveillent. Il faut interroger les femmes.
Les médias libres.
Les médias libres qui aucune censure, tout est dit. Ici, Kairos, il a fait une dernière conférence de presse avec le docteur David Bouillon, qui lui a une autre stratégie par la prise de sang, une autre prise en charge dans les hôpitaux. Il était tout seul, Kairos, avec un autre média alternatif.
Kairos et son journaliste vedette, Alexandre Penas, reviennent d'ailleurs sans arrêt dans la conversation et l'un des manifestants lui a même dédié une chanson.
On a la preuve qu'il existe en Belgique un journaliste, lui sans la moindre hésitation. Il a posé la bonne question. Et vous, la presse prostituée, aux fausses infos canassées, vous l'avez trouvé déplacé? Sa question vous a tué. Alexandre Penas, journaliste pugnace, sa question dans ta face, ta réponse une grimace. Il est temps de les déloger, ces experts de la 5G.
J'avoue être un peu chamboulé par cette discussion qui va durer plus d'une heure avec les manifestants. Mon idéal de journaliste de service public est solidement questionné. Là où j'ai le sentiment d'avoir fait mon boulot le plus honnêtement possible durant cette crise, en essayant de comprendre au fil des mois les enjeux d'une pandémie hors norme, de diversifier les points de vue, d'animer du débat de société quotidiennement, je me retrouve là, étiqueté comme un média de pouvoir qui n'aurait servi qu'une vision univoque de la crise.
Mais vous êtes quand même d'accord qu'il y a 99, presque 9% des... des gens qui s'en sortent sans mourir.
Ah oui, bien sûr.
Mais est-ce que c'est une pandémie?
Est-ce qu'il faut vacciner?
C'est une pandémie, c'est 50% des gens qui meurent.
Oui, mais quand vous avez 30 000 personnes qui meurent, 30 000 personnes.
Mais 30 000, il y a chaque année 30 000. En 2015, il y avait plus de personnes mortes.
30 000 en plus que des gens.
Non, ah, ça c'est pas vrai. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Il ne faut pas raconter des bêtises.
Chez les personnes rassemblées cet après-midi-là, la crise de confiance vis-à-vis des médias est abyssale. Et elle semble encore plus profonde, si c'était encore possible, vis-à-vis des politiques.
Et vous, par exemple, aux prochaines élections, vous comptez faire quoi par rapport à ce que vous avez vécu là, puisque vous dites que c'est une dictature sanitaire?
Il n'y a quand même pas les gens quand on a voté ici. Hein,
Je ne voterai pas. C'est non essentiel sur la feuille.
Ouais, voilà.
Non essentiel. Puisqu'on nous a traités de non essentiel, mais ça fait faire aussi.
Ouais, ils servent à rien.
Dire que les gens sont non essentiels.
Mais on fait quoi alors à la place, comme autre système politique ou comme autre système démocratique?
En démocratie participative aussi.
Oui, voilà, comme on est.
Ce qui est frappant aussi ce samedi-là au Bois de la Cambre, ce sont les profils très différents des manifestants. Il y a des groupuscules d'extrême droite, entrés militaires, en attente d'un pouvoir fort, autoritaire. Et quelques pas plus loin, on trouve des militants tendance écologiste, très connectés à la nature, défenseurs d'une démocratie complètement participative, des visions de société a priori aux antipodes, mais qui là se retrouvent reliés par une même angoisse nourrie par cette année de crise Covid.
De toutes les manières, c'est une année faite d'angoisse, d'incertitude, pour tout le monde en fait. Qu'on soit en accord ou pas avec les mesures, qu'on pense qu'il y a un réel danger ou pas, puisque certaines personnes pensent qu'il n'y a pas de danger ou pensent même qu'il n'y a pas de pandémie. Mais de toutes les manières, on est dans un moment où toute la société, peu importe à l'endroit où on se situe, est bouleversée. Et c'est aussi un moment où de grande fragilité, quoi, même sur le plan psychique, où on a parfois besoin aussi de se raccrocher soit à des figures héroïques, comme on le disait tout à l'heure, ou de se raccrocher à des personnes ou des contenus ou parfois des théories qui vont venir donner réponse, ou à des groupes qui font qu'on a l'impression quand même qu'on est encore un petit peu prise sur ce qui nous arrive, etc. Donc on a vraiment un contexte, on a un terreau là qui est vraiment fertile.
Ça, je le constate bien au fil des échanges, comme dans cette discussion à propos de l'immunité naturelle. L'un des participants présents veut me convaincre que l'on a complètement sous-estimé cet enjeu, et notamment l'apport du zinc pour doper cette immunité, et j'ai quasiment l'impression d'avoir face à moi un immunologue.
Quand on est en carence de zinc, il manque donc l'antiviral qui bloque spécifiquement la polymérase des coronavirus. Le zinc, c'était démontré en 2010 à Leyde, nos Pays-Bas. En 2004, Van Rans a publié sur le SRAS en notant l'action de la chloroquine. En 2014, on démontre que la chloroquine est un ionophore du zinc. Donc, ça explique pourquoi Van Rans trouvait qu'elle était efficace, parce qu'elle est ionophore du zinc. Un ionophore permet de rentrer la barrière, de passer la barrière placentaire à des cations de zinc. Quand les cations de zinc sont dans le cytosol, ils se fixent aux extrémités du brin d'ARN viral et ils empêchent la lecture par les ribosomes. Et la maladie, elle est là.
C'est peut-être ce qui est le plus perturbant d'ailleurs dans ces rencontres. La plupart des personnes présentes ont énormément lu sur la pandémie, ont constitué des groupes, parfois des médias alternatifs, une sorte de bulle parallèle où la pandémie est bien moins grave que présentée par les autorités et où on considère que les choix de gestion de cette crise sanitaire ont été dictés exclusivement par les firmes pharmaceutiques elles-mêmes ou en tout cas par un tout petit groupe, les élites de la mondialisation.
Quand on s'intéresse à tout ça, on se dit, mais oui, en fait, on veut vraiment réduire une partie de la population en esclavage. Et comment? Et là, quand on regarde un peu, oui,
C'est comme si l'Europe voulait le modèle chinois.
De toute façon, si on le connaissait, le plan,
si on connaissait le plan. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une sorte de plan caché décidé à l'abri des regards. Cette idée d'un petit groupe qui se serait mis d'accord pour gouverner le monde.
On aurait vraiment parmi les grandes figures politiques, économiques, donc les grandes figures de pouvoir, on aurait une petite partie de ces gens qui, ensemble, auraient un plan de contrôle et de gouvernance, en fait, du monde. C'est vraiment cette idée qu'ils se sont mis d'accord, en fait, sur la manière de gouverner le monde au détriment de la majorité. C'est vraiment ça, avec donc non seulement une intentionnalité qui est avoir encore plus de pouvoir, etc. C'est comme si on effaçait en fait les rapports de pouvoir et les rapports de domination, les rapports de force qui existent entre eux. Imaginez simplement, trois, quatre grands présidents et trois, quatre responsables multinationales, etc., sont juste d'accord, etc. C'est évincer aussi, évidemment, le fait qu'eux-mêmes sont en tension, en concurrence, rapport de pouvoir, tout ça, voilà. Et donc, on a cette idée d'un groupuscule, c'est vraiment ça, qui s'est secrètement mis d'accord pour contrôler l'entièreté du monde. Et quand on bascule vers le complotisme, qui c'est un pas plus loin, on a un peu le même groupe, si vous voulez, mais ce groupe est influencé par des choses qui sont de l'ordre soit de la mystique, on a la franc-maçonnerie qui arrive souvent en arrière-scène. On a parfois le soupçon du complot juif, donc il y a des éléments qui vont s'ajouter. On a donc dans les dernières grandes théories la question du pédosatanisme. La nuance quand même, au-delà de la question du machiavélisme, etc., c'est que du côté de la défiance, il est quand même possible éventuellement de renverser cette élite toute puissante. Du côté du complotisme, c'est plus compliqué puisque l'emprise en fait, qu'ils ont sur le monde est telle qu'il n'y a pas grand-chose à faire. En fait.
La première. Démocratie en question. Arnaud Reussen.
On arrive là au nœud de ce qui nous préoccupe. Ceux qui n'y croient déjà plus, qui refusent désormais obstinément de se fier à tous les repères traditionnels, médias, institutions ou autorités scientifiques. Et pour creuser cet enjeu, j'ai fixé rendez-vous à Edgar Schotz, auteur du livre « Inspirer, conspirer » qui analyse le complotisme au XXIe siècle. Sauf qu'Edgar Schotz a justement tendance, là maintenant, à se méfier du mot « complotiste ».
C'est-à-dire que je pense que l'étiquette complotisme ou complotiste a des effets très préjudiciables, un peu performatifs. Au fond, on met une étiquette sur un groupe, sur des gens, et ça sert à les disqualifier. Au fond, on se débarrasse à bon marché d'une série de débats en traitant des interlocuteurs de complotistes. Et que c'est plus intéressant de se demander pourquoi notre système ne produit plus de confiance. Et il y a des tas de gens qui, sans verser dans le complotisme, ne croient plus et ont des bons arguments pour ne plus croire dans la démocratie représentative, dans le fonctionnement de notre système. Et donc c'est à ce titre-là que je pense que c'est plus intéressant de travailler sur la confiance plutôt que de disqualifier des gens ou des questionnements par un mot qui est devenu une insulte, au fond.
Et d'ailleurs, comme le faisait remarquer Jacinthe Mazzocchetti, ceux que l'on qualifie de complotistes ont de plus en plus tendance aujourd'hui à retourner le stigmate et à se revendiquer carrément complotistes.
Ok, si être critique de la société, c'est être complotiste. Ok, je suis complotiste. Hashtag, je suis complotiste, machin. C'est des choses qui sont venues vraiment très fort, avec plein de postes. Prenez une bonne résolution pour 2021, devenez complotiste. Enfin, vraiment, une certaine valorisation du fait d'être un éveillé, voire un éveilleur. S'intéresser uniquement au complotisme, bon, pour moi, c'est passer à côté de la question. La vraie question, c'est la défiance. Et derrière la défiance, c'est ça vient d'où, quoi ?
Alors justement, ça vient d'où? C'est précisément ce qu'on a tenté de creuser avec Edgar Schütz. Et premier étonnement, selon ses recherches, jusqu'il y a quelques dizaines d'années, cette question de la confiance, et en l'occurrence du manque de confiance envers les autorités, eh bien elle semblait ne pas vraiment se poser.
C'est une question assez récente, en fait. Quand on s'intéresse au père fondateur de la sociologie, la question de la confiance est très, très peu traitée. La question de la confiance sociale, la confiance politique, est une question qui apparaît comme question scientifique à la fin des années 90 seulement. Et au fond, je pense que jusque-là, c'était pris comme un donné, un acquis. Enfin, typiquement, la question de la rotondité de la Terre, au fond, ça n'était pas une question ni sociale, ni politique, jusque très récemment. Et donc, il y a eu toute une série de choses qui étaient données, qui étaient pensées comme données, qui sont devenues sujettes à caution, en particulier depuis l'avènement des réseaux sociaux.
Mais comment expliquer alors que l'on soit passé d'une sorte de confiance par défaut à une méfiance par défaut?
La confiance, si on y réfléchit bien, c'est à la fois une condition de possibilité et un résultat de la société. C'est ce qu'on peut dire que quand une société se porte bien, et bien gérée, les gens se font confiance les uns aux autres, ils font confiance aux institutions chargées de leur dire comment le monde fonctionne, que ce soit les universités, les médias, etc. Mais qu'en même temps, c'est une condition de possibilité de fonctionnement de cette société. Une société dans laquelle personne ne se fait confiance, c'est une société qui ne peut pas fonctionner. Et probablement que ce qui se passe, mais c'est vraiment une hypothèse que j'avance, c'est qu'on peut se dire qu'il y a eu une espèce de basculement anthropologique et que le modèle de l'homo economicus, qui est l'anthropologie des économistes, comment les économistes voient le monde, ils voient le monde comme constitué d'individus qui visent à maximiser leur utilité, qui sont des êtres fondamentalement égoïstes, dépourvus de morale, etc. Que ce modèle s'est imposé au point que chacun envisage, peut-être ne s'envisage pas lui-même comme homo economicus, mais envisage son voisin comme tel. Et dans ce monde-là, la confiance est quelque chose qui ne peut pas être garanti, qui ne peut pas être donné d'avance. Et donc, vous avez besoin de notation, par exemple. On est dans... Pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas de notation avec des étoiles pour les taxis et qu'il en faut pour des Uber? La présomption par défaut est une présomption de défiance qu'il s'agit de contrebalancer par des systèmes, des institutions qui nous permettent de prendre un risque dans la rencontre avec l'autre.
Voilà donc une première clé possible pour comprendre la méfiance qui s'est répandue de plus en plus dans nos sociétés ces dernières décennies. Le modèle théorique de l'homo economicus, d'un homme qui chercherait à maximiser ses intérêts personnels en toutes circonstances, ce modèle aurait progressivement construit notre vision du monde au point de penser nos semblables comme guidés en permanence par leur seul et propre intérêt, qui n'est pas forcément le nôtre, ce qui conduit forcément à s'en méfier. Un modèle de société renforcé aussi par certains dispositifs publics, très fort basés sur le contrôle, sur une sorte de méfiance a priori à l'égard des citoyens. Mais Edgar Schütz pointe aussi une corrélation très remarquable entre méfiance et inégalité.
Les sociétés les plus inégalitaires en termes socio-économiques, et là on ne parle que des pays de l'OCDE, sont aussi les sociétés dans lesquelles les gens se font le moins confiance. Probablement en partie parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde. En Belgique, comme vous le savez, on est un des pays les moins inégalitaires, même si ça peut apparaître difficilement crédible à certains, mais un des moins inégalitaires de l'OCDE. On doit bien reconnaître que les gens se croisent encore. Notamment, la ségrégation urbaine est assez faible en Belgique par rapport à d'autres pays. La ségrégation scolaire est beaucoup plus forte. Mais en tout cas, il y a des lieux où le très haut de l'échelle sociale et le tout en bas peuvent se croiser, interagir, etc. Et ça donne... malgré tout, le sentiment d'un monde commun qu'on a à préserver, de normes qui s'appliquent à tous, l'image d'un univers qu'on a en commun, qu'on doit préserver, qu'on doit entretenir. Les sociétés plus inégalitaires, dans lesquelles vous avez des ghettos de pauvres, mais surtout des ghettos de riches, ce sont des pays où les gens ne se croisent tout simplement plus. Et dans ces pays-là, évidemment, la confiance est beaucoup plus difficile à instaurer avec quelqu'un que vous n'avez jamais croisé, que vous ne croiserez jamais. Il y a une corrélation très, très nette entre niveau d'inégalité et niveau de confiance sociale.
Une confiance sociale en berne, donc, à mesure d'inégalités qui grandissent, mais aussi, et c'est extrêmement visible dans nos pays occidentaux, une confiance dramatiquement basse envers le monde politique.
Une cantine se dégage, les Wallons ont de moins en moins confiance dans le monde politique, mais aussi vis-à-vis de la presse.
L'honnêteté, je crois qu'elle n'est plus dans le monde politique. Donc c'est ça que c'est un peu décevant.
C'est tous pour leur poche.
En 6 ans, c'est une perte de confiance de près de 10%.
La confiance à l'égard des décideurs européens était il y a 20 ans de 47%. Elle est descendue à 9%.
Méfiance, dégoût et ennui.
On se rend compte que les gouvernements, principalement du fait de la mondialisation, les gouvernements maîtrisent de moins en moins le cours des choses. Et on est dans cette situation paradoxale où les gens n'ont jamais, autant qu'aujourd'hui, eu accès à la parole publique via les réseaux sociaux. Ils peuvent vraiment dire théoriquement à un grand nombre de personnes ce qu'ils pensent de ce qui se passe. Et en même temps, les gouvernants n'ont jamais été aussi peu en mesure de changer le cours des choses. Et donc la mise en parallèle de ces deux phénomènes, une parole publique plus libérée que jamais et une impuissance politique plus forte que jamais, ça crée, je pense, en grande partie, si pas la défiance, en tout cas une forme de sentiment, de ressentiment plutôt, et d'impuissance.
En Belgique d'ailleurs, la complexité des modes de décision liés à notre structure institutionnelle renforce, parfois à tort d'ailleurs, cette impression de complexité, de lenteur, d'inefficacité politique. Et plus largement, l'évaporation de décisions vers des cadres supranationaux, les règles de convergence budgétaire au niveau européen par exemple, l'interdépendance des économies, tout ça gomme la possibilité pour les gouvernements d'imprimer des marqueurs idéologiquement forts.
Si vous regardez en France, je pense pas que énormément de gens ont senti une différence très nette dans leur existence avec le passage de Sarkozy à Hollande. En tout cas, beaucoup moins nette que lors du passage de Giscard à Mitterrand. Donc les contraintes qui pèsent sur l'action publique sont beaucoup plus fortes qu'avant. La marge de manœuvre des politiques publiques est beaucoup plus faible qu'avant. Et en plus, et ça c'est un effet un peu pervers du populisme, quand une bonne partie des gens votent pour des partis qui de toute façon n'iront pas au gouvernement, ils condamnent presque les partis de gouvernement à gouverner ensemble, et à ce moment-là, fort logiquement, vous dites il n'y a plus de différence entre les socialistes, les écologistes et les libéraux, et de toute façon ils sont au pouvoir ensemble, forcément ils doivent être au pouvoir ensemble puisque à côté se trouvent des partis qui n'entendent pas gouverner.
Ils ont toutes les raisons d'être en colère en voyant ce que ceux-là même, ces élus de l'UMPS, ont fait de notre pays en l'espace de 2 ou 3 décennies.
Donc c'est très très clair que dès le départ, on ne voulait pas du PTB autour de la table.
Donc il y a un double phénomène, un phénomène vraiment macro sur lequel, au fond, les populations ont très peu d'effet, qui est lié à la mondialisation, tout simplement. Et puis il y a quelque chose sur que deviennent les clivages idéologiques entre partis de gouvernement quand une bonne partie des voix vont vers des partis qui n'entendent pas gouverner. À ce moment-là, on entre dans quasi une prophétie autoréalisatrice. Vous dites qu'il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite. Vous votez pour des partis qui trouvent qu'il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite, et, ou en tout cas qui n'entendent pas participer au gouvernement. Du coup, les partis de gauche et de droite gouvernent ensemble, et du coup, ils assument un bilan commun, et du coup, vous dites qu'il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite.
Et sur le fond, on a aussi très vite vu qu'il n'y avait aucune volonté de rupture avec la politique du passé.
Ils ne veulent pas risquer de prendre des responsabilités.
Mais c'est quoi comme type de gaminerie que vous êtes en train de faire? Que la gauche mérite mieux?
Mais comment en sortir alors? Comment arrêter ce cycle de la méfiance? Pour nos deux experts, en tout cas, il ne faut surtout pas s'arrêter à lutter contre les symptômes.
Si vous fermez une page, elle se réouvre ailleurs. Donc on a des réseaux aussi parallèles, comme Telegram, etc., où il y a beaucoup moins de censure.
Jacinthe Mazzocchetti.
Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas agir sur la question des médias en tant que tels. Quand je dis médias, j'inclus la question des réseaux sociaux, etc. C'est pas pour ça qu'il faut pas, par exemple, dans les écoles, développer l'esprit critique au maximum, qu'il faut pas faire vraiment toute une initiation à comment fonctionnent les médias, comment on produit du contenu. Enfin, il faut faire ça, on devrait le faire beaucoup plus qu'on ne le fait. On s'en rend compte même nous à l'UNIF, quand en bac 1, On se retrouve très souvent avec des étudiants et étudiantes qui ne savent pas distinguer les sources, qui ne se posent pas la question de comment une source a été construite. Tout ça, c'est un vrai boulot. Hein. Il faut le faire vraiment aussi. Mais ça ne suffira absolument pas par rapport à ce qu'on est en train de vivre pour le moment. Et donc oui, moi je pense fondamentalement qu'on est à un véritable tournant. Et que si on ne prend pas au sérieux cette forme étrange... Et parfois, c'est vrai qu'il prend des aspects soit violents, soit loufoques, de contestation. On passe à côté de quelque chose.
Il faut aussi, pour Edgar Schotz, démontrer aux citoyens que sa voix compte, pas seulement au moment où il va aller faire une petite croix dans une case, dans l'isoloir.
Je pense que les mandataires politiques doivent être très attentifs à cette question-là. C'est-à-dire que quand ils pensent à un projet et qu'ils voient une forte mobilisation autour de ce projet, contre ou pour, etc., ils doivent penser que la réponse qu'ils apporteront à cette mobilisation a de l'intérêt au-delà du projet. Que si, quand bien même ils pensent que c'est une mauvaise idée de donner raison aux citoyens, que les citoyens se trompent en s'opposant à telle ou telle chose, que c'est intéressant de montrer aux citoyens que leur voix peut être entendue. Alors ça ne veut pas dire que n'importe quel comité de riverains de 4 personnes peut annuler toute décision, évidemment. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais vraiment, au fond, abaisser, pour parler en termes économiques, abaisser le seuil d'entrée aux politiques. Quoi. Montrer que au fond, en se mobilisant, on peut véritablement peser sur le cours des choses.
En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont ici. Et c'est un bon moyen pour rappeler aux différents responsables politiques que nous n'allons pas nous en tenir là.
Maintenant, si on pense, comme je le pense, que le niveau de confiance est directement et inversement lié au niveau d'inégalité dans la société, c'est des politiques qui seraient à même de lutter contre ces inégalités, non seulement économiques, mais sociales, environnementales, dont on peut espérer des résultats.
Pour Jacinthe Mazzocchetti, la réponse est aussi une forme d'humilité politique.
C'est quand même très rare d'avoir vraiment une prise de parole, notamment au niveau du politique, qui va admettre là où on a foiré, là où on n'a pas encore de réponse, là où on est en chemin. Il y a une attente aussi d'un moment donné, ok, stop quoi. Qu'est-ce qu'on a fait, où on en est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut proposer pour avancer, qui repose sur une espèce de rétrospection mais honnête, modeste aussi, parfois un peu de modestie, ça fait pas de mal, pour proposer autre chose, et par ailleurs proposer autre chose davantage en concertation avec la société civile, à l'écoute des populations. On sent, hein, y a une demande de prise de parole, d'écoute, de participation, pas forcément dans les lieux traditionnels existants que sont les syndicats ou les partis politiques, mais globalement dans la société, on sent ça. Même dans les groupes complotistes, il y a ça derrière. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté de ça. Et que si on passe à côté de ça, bien sûr que la démocratie, qui n'est déjà pas en grande forme, hein, en tout cas, ça c'est mon point de vue, elle est d'autant plus fragilisée et mise à mal, parce qu'il y a des personnes, par contre, qui ont prétention à avoir réponse, et leurs réponses ne vont pas dans le sens, évidemment, d'une gestion démocratique du vivre ensemble. Hein.
Avec une équation en forme de quadrature du cercle pour les politiques.
La confiance est à la fois une condition et un résultat. Et donc c'est ça le problème dans lequel on est, c'est qu'au fond les politiques sont en devoir de recréer de la confiance alors qu'ils n'en bénéficient pas pour le moment. Le problème semble dépasser d'assez loin la capacité d'action des politiques seules.
On pourrait conclure, de manière sans doute un peu bateau, en rappelant que justement, la démocratie n'est pas seulement l'affaire des politiques, quel est ce que nous en faisons, nous, citoyens, collectivement. Mais justement, je préfère vous faire confiance pour trouver une meilleure conclusion à ce premier épisode. C'était Démocratie en question, une série de La Première réalisée avec le soutien du Fonds pour le journalisme. À la réalisation sonore, Jonathan Remy. Prochaine étape de notre road movie démocratique, épisode 2, on s'intéressera aux oubliés de la démocratie, ceux dont la voix compte peu, voire parfois pas du tout, qui se sentent même illégitimes. Tous les épisodes sont à retrouver sur Ovio et sur toutes les plateformes de téléchargement. Et si vous souhaitez vous exprimer dans le cadre de cette série, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à l'adresse démocratie@rtbf.be, démocratie au singulier et sans accent, démocratie@rtbf.be. Vos avis, vos suggestions, vos interpellations pour revitaliser la démocratie sont les bienvenus.